Alors Pierre-Yves, pourquoi Power Corporation veut-elle racheter des actions?
Power Corporation, deux filiales, on parle de 5 milliards au total. Faut comprendre une chose, Paul, c'est que le but premier d'un actionnaire, c'est de faire du rendement. Et quand la haute direction dit « notre meilleur mouvement présentement d'investissement, c'est de racheter des actions », c'est que les dirigeants jugent que à court terme et à moyen terme, le rachat des actions va en donner plus pour leur argent aux actionnaires que des investissements ailleurs. Et c'est très intéressant parce que si on regarde l'action de Power Corp, on est à 29$ environ. On a déjà été à près de 40 en 2007 et on n'a jamais réatteint ce montant-là. Power Corp est une action qui vacille, qui donne pas les rendements espérés et qui est quand même basée quand même sur des industries qui sont relativement payantes dans la tête de l'investisseur, c'est-à-dire les finances. Donc, présentement, on a fait 18% depuis le début de l'année. Et ça, ça démontre une chose. Comme investisseur, on n'y croit pas. Et ça m'amène au S&P 500. Le S&P 500, au cours de 2018, on a plus investi dans le rachat d'actions chez les grandes entreprises plutôt qu'investir dans les CAPEX, les Capital Expenditure, donc finalement dans les investissements. Donc, ça donne un signal que l'actionnaire présentement ne pense pas que l'avenir est relativement rose pour la business, pour le développement. Et pour ça, on préfère racheter des actions plutôt qu'investir ailleurs et faire des acquisitions.
Alors, il y a un intéressant rapport qui a été présenté sur le marché hypothécaire 2018. En fait, c'est une sorte de portrait du marché hypothécaire.
Oui, et ce qui est bien là-dedans, c'est que ça nous démontre un peu où on se situe comme société. Et ça nous permet, nous, comme investisseurs immobiliers ou comme propriétaires de maisons, de voir c'est quoi la tendance. Donc, ça nous aide à prendre des décisions. Par exemple, oui, on nous dit que effectivement le ratio d'endettement des ménages a atteint 170% et que c'est un record en 2018 et que quand même, on atteint une certaine stagnation. Mais on va aussi à un autre point, on nous dit les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté cette année au niveau des taux directeurs. Donc, il y a possiblement stagnation au niveau de ça cette année au niveau de la Banque du Canada parce que qu'est-ce que vous voulez? L'économie doit être capable de prendre le coup. Et après ça, on arrive dans la province de Québec sur les parts de marché hypothécaire. Et situe la part de Desjardins, Paul, dans les prêts hypothécaires au Québec?
Non.
42%.
Wow.
Ça veut dire qu'il y a 4 prêts hypothécaires en dollars sur 10 est financé par Desjardins. Et le deuxième, là, si on va en force, c'est RBC. Donc, RBC avec 10%. Ah non, c'est troisième. La Banque du Canada, la Banque nationale à 12%. Donc, les autres
quand
joueurs.
Ah ben, il y a un écart énorme avec les autres joueurs.
Exact. BMO 7, la Banque Laurentienne 1. Et t'as les autres prêteurs à 13. Donc, on va aller dans les banques plus petites ou même dans les prêteurs plus à risque. Et d'ailleurs, c'est une autre tendance qu'on observe. C'est que l'évolution du nombre d'hypothèques enregistrées au Québec a décliné là à partir de 2009-2010 jusqu'à environ 2017. Et là, on voit un petit regain. Donc, il y a quand même une lecture ici intéressante. Et on voit que 42% des prêts hypothécaires sont des renouvellements ou refinancements, mais il y a quand même 58% de nouveaux prêts hypothécaires. Mais c'est sûr que tous les boomers qui sortent du marché font en sorte que eux, leurs actifs sont payés ou qui sont déjà dans le marché, mais un actif payé. Mais il y a beaucoup de gens qui doivent refinancer. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'endettement au Québec, c'est normal. Mmh. Mais c'est intéressant de voir l'orientation qu'on prend et la tendance qu'on prend. Mais chose certaine, beaucoup de gens optent pour la SCHL, c'est-à-dire le financement avec le premier achat financé parce qu'on a moins de 20% de mise de fonds. Et ça, c'est très normal avec les faibles taux d'intérêt.
Alors, on va glisser sur le volet finances personnelles. Tiens, justement, que faire avec son argent en 2019? Le dépenser?
Je sais pas, Paul. Pour vrai, c'est la première année où je suis perplexe. Et non, je suis perplexe un peu parce que, bon, t'as la bourse qui, depuis décembre, aux États-Unis, t'a donné 11% sur le S&P 500. Au niveau du TSX, on t'a donné 15% depuis le creux de Noël. Donc, tu sais qu'il y a un peu la baisse, elle était remontée un peu. Donc, tu sais que tu seras pas des grands rendements cette année au niveau de la bourse. Et au niveau de l'immobilier, ben, tu te rends compte qu'avec les taux d'intérêt qui remontent, donc qui ont remonté autant aux États-Unis qu'au Canada, ben, ton gain immobilier ne peut pas être potentiellement aussi élevé que lorsque les taux étaient à 6-7% en prêt hypothécaire et qu'ils ont eu de la marge pour descendre. Donc, la question, c'est où mettre son argent? On nous dit après ça que vendredi dernier, on nous disait qu'il y avait le pire déclin des dépenses depuis 9 ans aux États-Unis. Donc, les gens sont rendus à la limite du crédit, même pour les biens durables. Ça veut dire qu'on est rendu à la limite d'avoir emprunté pour la laveuse, la sécheuse, le divan. On va aller plus loin que ça. On parle aussi de l'économie au neutre au Canada. On dit que le PIB, la croissance est extrêmement tellement faible et qu'on a peur de signes de récession, surtout avec aux États-Unis, pas aux États-Unis, mais en Alberta, on a l'espèce de stagnation au niveau de la production pétrolière. On veut mettre un ralentissement là-dessus. Donc, au total, les signaux macroéconomiques nous laissent croire que ça ira ni bien ni d'un bord ni de l'autre. C'est sûr que pas dans une stratégie d'investissement. On doit y aller à long terme. Donc, faut être en accord avec notre stratégie d'investissement, peu importe quelle année on est, peu importe comment ça va. Et si vous avez 25 à 45 ans et que vous avez une stratégie qui est en accord avec votre capacité à prendre du risque, il n'y en a pas de problème. Puis l'immobilier que vous avez, ben, faut continuer à vivre dedans partiellement de toute façon. Donc, au net, ça change pas votre stratégie. Mais si vous avez 60, 65, 68 et que vous avez une grosse pondération action et que vous étiez bien avec ça, peut-être que c'est le temps de se dire, est-ce que mon profil d'investisseur correspond à mon cycle de vie? C'est-à-dire, est-ce que je suis rendu à un moment de mon cycle de vie ou est-ce que je dois me diriger vers des placements un peu plus, entre guillemets, pépères? Parce que s'il y a une autre grosse crise économique de 4-5 ans, ça va amputer ma retraite et ma capacité d'aller en VR aux États-Unis, faire le tour des stades américains, Paul.
Ben oui, je sais. Ben oui, oui, je suis rendu là. Moi, je suis dans cette catégorie-là.
Oui.
Et tu te dis tout le temps, quand est-ce que tu vas vraiment arrêter de travailler, c'est-à-dire prendre une retraite complète? Est-ce que les fruits auront été ramassés ou si tu vas tomber dans une mauvaise période? Il y a des gens qui se retirent dans une mauvaise période.
Autre point, c'est l'écart fiscal, c'est-à-dire...
Oui, ils ont mangé une claque pendant la dernière année avant leur retraite.
Puis dépendant de qui on est, comment on a structuré notre retraite, il y a des gens qui, au niveau fiscal, ont des décisions différentes à prendre de leurs voisins. Par exemple, vous avez une société par action, vous avez 60 ans, vous avez des REER pleins, peu importe, faut commencer à sortir son argent tranquillement, pas vite, pour pas se retrouver du jour au lendemain avec un taux fiscal élevé parce que on n'aura pas assez retiré. Donc, des fois, il faut retirer de l'argent de notre REER pour le mettre dans le CELI. T'imagines-tu, tu vides un mécanisme fiscal pour investir dans un autre
moins,
et tu prends une décision volontaire.
Oui, mais au moins, tu as une option. Mais au moins, tu as une option. Tu peux le faire avec le CELI.
Exact.
Merci beaucoup, Pierre-Yves, et bon retour. On est bien content de te retrouver.
Ça roule, Paul, maintenant. Ça marche
pas. Non, ça roule pas. Toi, tu sautilles sur une jambe.
Et je roule en chaise roulante.
Bye.